tous éviter que ce soit cool, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, nous sommes jeudi, il est l'heure du Canu Info. Ce soir, au micro, en face de moi, Laurence.
Bonsoir, Laurent tout court, hein. t'as fait traîner un peu. Mais.
Ouais, parce que j'allais voir si tu allais réagir. Nous allons vous parler plein de choses, un peu comme d'hab, mais un peu dans le désordre, hein, faut le dire ce soir. Alors on va commencer... avec évidemment le 1er mai, nous irons aussi en Russie, on parlera du Japon, on parlera inégalité, excusez-moi, et pauvreté, on parlera de débilité politique, hein, c'est-à-dire de ce qui se passe là-haut chez les chefs. On parlera d'Avenger 2, non, on va pas faire critique de film ce soir, mais nous parlons quand même d'Avenger 2. On parlera du FMI, on parlera de Google, on parlera aussi... Ah, on vous parlera de cette marque qui mettait ses vendeurs mannequins torse nu. On vous parlera des amitiés entre la France et certains pays. Ce soir, on parlera du Qatar. On parlera du fichage des supporters. Eh oui, mais pourquoi c'est pas bien? Et puis, nous parlerons évidemment de Tchernobyl ce soir.
Alors, on ouvre naturellement sur le 1er mai, même si vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 avril et pas du tout le 1er mai, puisque c'est demain. La question qui se pose, comme à la veille maintenant de quasiment toutes les fêtes, sauf les fêtes religieuses, est-ce que demain, des gens vont encore être obligés d'aller travailler, puisque si vous regardez un petit peu autour de vous, d'année en année, sur les fêtes, les jours fériés très exactement, il y a de plus en plus de personnes qui sont obligées d'aller travailler. C'est très très flagrant avec le 8 mai, beaucoup moins avec les fêtes religieuses comme je le disais, hein, puisque le 25 décembre est très peu travaillé en France, par exemple. Et un petit exemple que j'ai trouvé comme ça au détour d'un communiqué de presse, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des transports, la FNOT, qui revient à la charge, comme chaque année, en disant que c'est inadmissible qu'il y ait des transports en commun dans les régions et dans les départements qui ne fonctionnent pas le 1er mai, puisqu'ils disent qu'il y a une inégalité de traitement. Et alors, pour reprendre leurs mots, la chaîne des transports est interrompue, puisque la SNCF, la RATP, les navions, les trucs comme ça, fonctionnent le 1er mai, mais les transports régionaux et départementaux dans la majorité des villes sont à l'arrêt. Donc eux, ils disent que c'est une attaque à la liberté de déplacement, Donc voilà. Et ils disent aussi que c'est incompatible avec la notion de service public. Ces capitalistes libéraux de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports oublient de rappeler quand même que cette notion de service public, elle existe déjà quasiment plus. On rappelle qu'à Lyon, par exemple, c'est une entreprise privée capitaliste cotée en bourse, Keolis, qui gère le réseau. Et d'ailleurs, ce n'est plus un service public puisqu'il ne nous appelle plus des usagers, mais des clients. Hein, il y a eu des notes pour bien dire qu'il faut utiliser le mot client. Donc, c'est une très bonne chose que demain, on galère tous pour aller au rendez-vous de la manif place Jean Jaurès à 10h30, parce qu'en échange de ça, les salariés des TCL ont droit, comme nous, comme tout le monde devrait y avoir droit, à une journée de repos, voire de mobilisation, pour rappeler que ce n'est pas la fête du travail, comme le disent la droite, l'extrême droite et les libéraux, mais c'est bien la fête des travailleurs. Hein. La fête du travail est inventée par Pétain. Et bien évidemment, les journalistes collabos qui continuent d'exister hein, dans le domaine public, on a entendu France Info, France Inter, utiliser encore le mot « fête du travail ». Ils ont oublié qu'on avait jeté Pétain, qu'on n'était pas toujours à droite. Bah si, ils le sont encore. Alors ça, c'est le début des infos sur le 1er mai. Il va y en avoir plusieurs. On rappellera quand même que demain, c'est un triste anniversaire, puisque le 1er mai 1995, un jeune Marocain d'une trentaine d'années, Brahim Bouaram, va être assassiné par des militants d'extrême droite. C'est à Paris, en fait, ils vont l'attaquer et le jeter dans la Seine, donc il va se noyer. Donc ces militants d'extrême droite, vous les appelez comme vous voulez, des skins si vous voulez, notamment Michael Fréminet, hein, qui était le principal accusé lors du procès, qui avait même pas 20 ans hein, pour lorsqu'il a tué Brahim. Il était venu hein, de Reims avec des cars affrétés par le Front National, puisque c'est aussi malheureusement une grande manif, qu'on espère le plus petite possible quand même, du Front National du 1er mai à Paris. Donc demain, comme d'habitude, il y aura un rassemblement à Paris pour la mémoire de ce jeune Marocain. Ça fait 20 ans qu'il a été tué par l'extrême droite. Donc l'extrême droite qu'on tue, on vous le rappelle. Alors si on va un peu plus loin, j'ai pas fait le tour de tous les pays, parce qu'il y a plein de pays où ça se passe très très mal hein, quand même, la fête des travailleurs, faut quand même le dire. Juste rappeler que ça risque quand même de cartonner un petit peu en Turquie, puisque cette fameuse place Taksim d'Istanbul, place symbolique hein, pour les luttes sociales, est à nouveau interdite aux manifestants et aux manifestations, aux militants et aux syndicalistes. Donc, le gouverneur Vasip Sahin a bien expliqué que la place n'était pas adaptée aux célébrations du 1er mai et qu'il avait donc rejeté naturellement la demande des organisations syndicales de s'y réunir, évoquant des risques à la sécurité des personnes et des biens. Hein, belle excuse que la sécurité. C'est au nom de la sécurité que toutes les libertés aujourd'hui sont amoindries, voire supprimées. Et ben c'est bien pareil en Turquie. Les médias turcs annoncent que l'État aurait mobilisé au moins 10 000 policiers pour interdire l'entrée de cette place Taksim aux piétons. Les stations de métro autour sont fermées, les bus ne passeront pas là-bas non plus. On rappelle que ça fait 2 ans hein, qu'il y a un énorme combat, hein, on va dire, entre le gouvernement islamo-conservateur turc et les syndicats et les militants de gauche, qu'en 2013 le défilé avait été interdit. Et, alors là, ils avaient argué qu'il y avait des travaux d'aménagement de la place et que c'était parti en affrontement entre les militants syndicaux et les forces de l'ordre, qu'il y a eu le parc Gezi juste à côté qui avait été occupé, que ça avait duré des semaines et des semaines, hein, enfin en tout cas plus de 2 semaines. Il y avait eu une mobilisation relativement importante, même si ça restait symbolique, d'une partie de la population turque qui était venue soutenir ces militants syndicaux, qui étaient en opposition au gouvernement réactionnaire et autoritaire au pouvoir. Aujourd'hui, pas grand changement. C'est le même homme qui est à la tête du pouvoir. Il est passé de Premier ministre à président tout-puissant. Donc, il a, c'est lui hein, qui a donné l'ordre, on a bien conscience, interdit cette manifestation. Le lieu était symbolique. Hein, c'est un lieu sur lequel, en 1977, le 1er mai, des militants avaient été assassinés. Hein, il y avait eu des tirs, en fait. Et puis, après, bon, assassinés. Il y a eu des tirs. Là, comme la foule était importante, c'était parti en une sorte de panique. Il y avait eu quand même 34 morts. Donc voilà, on rappelle en même temps que le gouvernement turc, tel le parlement turc, tel le parlement français, a lui aussi voté une petite loi de sécurité intérieure ultra sécuritaire, histoire de doper les pouvoirs de la police contre les manifestants, les syndicaux, les manifestants syndicaux et les militants syndicaux. Voilà, je parlais que de la Turquie, hein, ça, on sait que ça cartonne dans pas mal de pays, ces manifestations syndicales du 1er mai. Il y a même plein de pays où c'est interdit. Et en Ukraine, ce sera peut-être la dernière fois que le Parti communiste pourra se montrer, puisqu'ils ont interdit toutes les idéologies en lien avec le communisme. Donc voilà, il y a aussi ça, il y a aussi des choses symboliques dans d'autres pays.
Oui, alors demain, 1er mai 2015, il se passe d'autres choses en Russie. Alors c'est cet organe de régulation des médias, cette autorité qui s'appelle le Roskomnadzor, que je n'arrive jamais à prononcer, vous m'en excuserez, une autorité forte, et va avoir ses compétences encore élargies. Alors c'est suite à une loi anti-piratage votée en novembre 2014, donc peu à peu tout ça entre en vigueur. Alors par exemple, l'autorité va pouvoir accéder aux correspondances privées pour s'aider à bien réguler les médias, à pouvoir aussi aller voir les données personnelles des utilisateurs des réseaux sociaux, puisque c'est la grande bataille en Russie. Il faut contrer, surveiller ces réseaux sociaux. Alors, c'est un organe qui se retrouve maintenant quand même vraiment avec une force et une puissance très importante sur le contrôle. Il faut savoir que depuis le mois de mars, les internautes russes qui souhaitent ouvrir un blog doivent s'inscrire, c'est-à-dire qu'ils doivent se signaler, en fait. Il y a plein de petites choses qui apparaissent comme ça, des petites censures. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les mèmes. Hein, c'est des espèces de trucs... c'est un truc viral sur Internet. Souvent, c'est moqueur. Donc, il y en a eu beaucoup en Russie qui reprennent un petit peu les photos ou les postures de Monsieur Poutine, puis qu'ils mettent en scène dans des trucs absolument débiles et moqueurs. Et ça, maintenant, c'est contrôlé, puisqu'il y a eu... un internaute qui a vu son mème déclaré illégal, tout ça pourquoi ? Parce qu'il avait parodié un chanteur et puis il avait ajouté dessus une autre chanson et donc tout ça semblait irrespectueux. Alors c'est évidemment un moyen aussi de pouvoir se saisir de tous ceux qui visent Monsieur Poutine. Donc ça c'est ce jugement s'est en fait élargi à tous ces petites pastilles virales. Donc je vous le disais, une forte présence. Alors on semble que tout ça fait partie d'un grand schéma en Russie sur la censure. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment là-bas il y a une autocensure qui se met en place. Alors j'en ai trouvé plusieurs. D'abord c'est une chaîne de télé Dodds qui a diffusé le clip de campagne d'Hillary Clinton sur son antenne, mais a quand même mis un petit bandeau pour prévenir l'interdisant aux mineurs. Pourquoi ? Parce qu'on y voit dans ce clip de campagne, dans la même scène du quotidien, deux hommes, ou parfois c'est deux femmes. Donc pour s'éviter des problèmes de propagande homosexuelle, la chaîne a signalé, attention, danger, avec un gros truc qui sonne pratiquement. Donc ça c'est une autocensure. Puis on a trouvé une autre qui vient des librairies. Là, moi je suis toujours un petit peu plus inquiète. C'est trois grandes librairies de Moscou qui ont retiré une bande dessinée très célèbre, très connue, seul BD à avoir obtenu le prix Pulitzer, c'était en 92.
Le prix Pulitzer, c'est le prix pour les reportages.
Je vais vous donner, ça a été publié dans 30 langues dans le monde. Le russe, c'était en 2013.
Ah, c'est récent en Russie.
C'est très très Russie, ça parle du nazisme. Alors,
des meilleurs
côté,
BD de l'histoire de la
vous
BD.
Vous trouvez Art Spiegelman, ça vous dit quelque chose?
C'est Maus.
Voilà, vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, c'est le moment, les trouve dans les bibliothèques. Hein. Franchement, allez-y, toutes les bibliothèques, je crois, l'ont maintenant.
Ouais, c'est un
sinon,
monument.
C'est un scandale. Faites un scandale, ouais. Moi, je vous le dis. Tu disais,
c'est un monument de la BD parce que c'est Art Spiegelman qui n'est pas un artiste de BD, qui est un illustrateur, un artiste de l'art contemporain américain. Et. A écrit une BD donc sur se mettant en scène lui et questionnant son père essentiellement autour de ce qu'il a vécu, son père étant miraculeusement on pourrait dire échappé vivant des camps de la mort nazie. Et voilà, il y a toute cette relation. Donc on découvre des choses qu'on connaît sur les camps de la mort, mais aussi son rapport avec son père, ce juif qui est à son tour à nouveau raciste dans la vie moderne américaine vis-à-vis des autres, des noirs notamment. Voilà, c'est une BD très intéressante, très complexe et qui est incroyablement forte.
Et alors là, vous me dites, mais... Pourquoi ils l'ont retiré?
Ouais, parce que ils sont très fiers de la lutte anti-nazie, quand même, en Russie.
Eh ben oui, mais vous savez qu'en Russie, en ce moment, on prépare les célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à côté de ça, en décembre 2014, hein, c'est assez récent, il y a une loi qui interdit la propagande nazie. Il y a un contrôle très important hein, des symboles nazis dans la sphère publique. Jusque-là, ok. Simplement, ça prend des proportions extrêmement importantes. Et là, les libraires ont décidé que la croix gammée sur la couverture, ça posait peut-être un problème. Peut-être. Ils ne savent pas bien. Donc, ils s'auto-censurent. Donc, ils l'ont retiré des catalogues Internet. Ce qui, moi, je trouve intéressant dans cette censure, c'est que une de ces librairies, Biblioglobus, nie avoir jamais proposé l'ouvrage, alors que la presse, qui a quand même fait son boulot pour une fois, a bien retrouvé trace de ces ventes précédentes. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment retiré. Mais ils préfèrent dire, ah non, mais on ne l'a jamais vendu. Donc, il y a vraiment une auto-censure. Là, on tombe quand même dans le ridicule. Mais ça fait très très peur, je trouve, quand même.
D'ailleurs, je me posais la question si en Allemagne, la couverture était la même. On sait que l'Allemagne interdit toute représentation des signes nazis. Si vous ne savez pas, le groupe KISS n'a pas le même logo en Allemagne que dans le reste du monde, puisqu'ils ont les deux SDSS, ce qui n'a rien à voir, hein, mais voilà. KISS n'étant pas un groupe nazi. Ils sont très à cheval là-dessus. Donc là, la Russie, c'est quand même un prétexte aussi, des fois, à de la vraie censure.
Ouais, alors là, il faut quand même savoir qu'il y avait quand même 10 000 copies qui avaient été vendues jusque-là, donc c'est pas si mal. Donc bon, ça peut paraître anecdotique, parce qu'on peut se dire que c'est une vente que sur Internet, mais en fait, ça reste quand même des grosses librairies qui sont extrêmement présentes sur le marché. On espère que les indépendantes vont, elles, profiter de cette affaire, mais en fait, ça reste, voilà, c'est quand même un climat très particulier en ce moment en Russie.
Ceci dit, ça a peut-être fait de la pub pour Maos.
Ouais, bah écoute, j'ai toujours inspiré ça. Alors, c'est encore à moi. Yes. Si tu veux bien, on va repartir au Japon. On vous a parlé un petit peu la semaine dernière des difficultés entre le Japon et la Corée. Alors il faut savoir que Monsieur Abe, le Premier ministre japonais, était aux États-Unis. Il est allé voir mardi Monsieur Obama et hier il était devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Il a pris la parole. Évidemment, tout le monde l'attendait un petit peu au tournant pour savoir comment il allait s'exprimer et sur quoi il allait s'exprimer. Alors on savait qu'il allait revenir évidemment sur la Seconde Guerre mondiale, sur la participation du Japon. La grande question était de savoir comment et quel vocabulaire il allait employer. Et au milieu de tout ça, il y a eu une femme. Alors, selon les informations que j'ai eues, entre 86 et 88 ans, attention, j'ai pas la précision exacte, Yong-soo Lee était présente au congrès.
Tu veux dire une coréenne?
Oui, tout à fait, une sud-coréenne. Elle était donc présente. Elle a été invitée par Mike Honda, qui est un élu démocrate de Californie. Et pourquoi c'est important? Parce qu'elle a fait partie de ces 200 000 femmes livrées aux soldats de l'armée japonaise.
Dans les bordels.
C'était très très fort. C'était très symbolique. Ouais. Alors d'après les témoignages, elle est restée plutôt assez impassible. On se doute un petit peu. Alors dans son discours, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est baladé en même temps, Monsieur Abe. Il a été rendre visite. Donc il a été visiter le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale à Washington. Alors là-bas, dans son témoignage, il dit que c'est avec un profond sentiment de repentir au cœur, j'ai prié silencieusement. Donc on lui a demandé. Quand il dit ça, en fait, parce qu'on lui demande de répondre du comportement de l'armée impériale japonaise pendant cette Seconde Guerre mondiale, qui est attaquée par beaucoup de pays, le Japon est attaqué aussi par les pays qui ont été colonisés. Mais globalement, il s'en est tenu à des propos assez soft, de profond remords. Alors, il n'a pas fait allusion aux femmes de réconfort pendant sa présence au Congrès. Mais mardi, quand même, il avait dit qu'il était profondément peiné. Et il a promis que l'Assemblée Générale de l'ONU, en accord avec le Japon, allait pouvoir mener un grand combat pour éliminer la violence sexuelle dans les conflits. parce qu'il a quand même admis que, oui, les conflits armés ont toujours fait souffrir davantage les femmes, mais il reconnaît toujours pas vraiment précisément les horreurs qui ont pu être faites. Il faut savoir que les femmes se sont rendues devant la justice n'ont jamais réussi à faire aboutir quelconque procès, ça va jamais bien loin. Elles n'ont pas obtenu cette réparation-là. Donc, ça reste encore une fois tout ça très superficiel, hein, c'est ce qu'on reproche côté sud-coréen. On lui reproche de ne pas avoir présenté de véritables excuses. Alors, le Japon, on l'a déjà fait, mais c'était une autre ère. Et M. Abe, c'est vrai que s'est fait connaître aussi par son côté assez fascisant, quand même, extrême droite.
Très nationaliste, ouais.
Très nationaliste, et donc c'est aussi là-dessus qu'il joue en fait un double jeu. C'est-à-dire que, au pays, il reste très nationaliste, et à l'extérieur, il essaye d'amener un petit peu de diplomatie. C'est ce qu'on appelle avoir le cul entre deux chaises, sauf là, il en touche aucune des deux, les chaises, puisque il reste quand même très nationaliste. Donc tout ça, ça reste quand même encore un peu du blabla, mais bon, est-ce du progrès? C'est petit pas quand même.
Alors maintenant, on va faire une petite rubrique sur la pauvreté et les inégalités. Cette rubrique est née de la propagande qui commence à m'agacer sur les chiffres du chômage. Alors donc je suis revenu sur je suis allé regarder un petit peu les chiffres du chômage. J'ai passé un bout de temps à chercher toutes les statistiques. Donc je vous rappelle qu'en France on est à peu près un peu au-dessus de 10%. Je prends les chiffres officiels reconnus par le Bureau international du travail. On sait que c'est encore plus que ça, mais on va garder ces chiffres-là. Donc la France, à peu près 10%. Les USA, l'Allemagne et l'Angleterre, entre 5 et 6%. Et on a la propagande dans les médias dominants. Regardez, la France a presque, pas deux fois plus de chômage, mais presque deux fois plus de chômeurs, en tout cas, que ces pays. Donc, il faut faire les mêmes réformes que ces pays. Et je me suis dit, bon, ils utilisent le critère du nombre de chômeurs en permanence. Est-ce qu'il y a une raison idéologique ou est-ce que c'est un très bon critère? Et puis, en face de ces chiffres-là, pour ces quatre pays-là, j'ai mis les chiffres de la pauvreté. Donc c'est un peu plus difficile à trouver, tout simplement pour une bonne raison, c'est que les journaux n'ont rien à faire. Alors une fois par an, ils sortent un petit chiffre sur la pauvreté, alors que le chômage, c'est tous les mois. En tout cas pour la France. Donc déjà, il y a une différence d'utilisation des chiffres. La pauvreté, c'est de temps en temps, on sort un petit truc. Le chômage, on l'utilise tout le temps. Et puis j'ai pris les chiffres. Et là, on se rend compte que les USA, l'Allemagne et l'Angleterre, eh bien, ils ont à peu près aussi les mêmes chiffres sur la pauvreté, grosso modo assez proche de 16% de la population pauvre. Et la France est à 14%. Et là, on se dit, ça y est, on commence à comprendre pourquoi le critère idéologique du chômage est utilisé et pas le critère de la pauvreté. Pourquoi ? Parce que la France fait mieux que les autres. Alors, c'est pas énorme la différence, mais elle fait mieux. Or, dans le chômage, on fait moins bien. Et ça valide pas le discours économique libéral porté par les médias dominants qui dit qu'il faut faire des réformes pour fluidifier le marché du travail, etc., etc., toutes ces choses que vous connaissez là. Et on découvre que chaque fois que vous allez entendre qu'on parle du chiffre du chômage, à aucun moment les journalistes ne mettent en face les chiffres de la pauvreté. Donc, la question qui reste posée sur l'utilisation de pourcentage de chiffres, est-ce que c'est mieux d'utiliser le chômage, est-ce que c'est mieux d'utiliser la pauvreté? Ben, c'est un truc simple. C'est que, en tant qu'être humain, grosso modo, moins il y a de pauvres, mieux c'est. Parce qu'on sait que les pauvres ont quand même une existence moins facile, ce qui paraît assez logique à comprendre. Ben, pour les économistes, les capitalistes, les patrons, les gens comme ça, ce qui les intéresse, c'est le taux de chômage. Et les politiques, c'est le taux de chômage. Donc voilà. Donc, chaque fois que vous entendez parler du taux de chômage, ce sont des gens qui méprisent la population, les pauvres, et ça, voilà. Comme ça, vous savez déjà de quoi ils vont parler et qu'ils vont pas prendre le problème du bon côté. Si on revient un petit peu, parce que du coup j'ai travaillé là-dessus, sur la pauvreté, donc on a tous en image ce qui s'est passé, des années 70 au milieu des années 90, une grosse réduction de la pauvreté en France. Ça stagne jusqu'en 2000, et à partir de 2000, cassage général, hein, puisque si on prend le seuil à 50... Alors, la définition de la pauvreté, c'est toujours un peu compliqué. Les chiffres que j'ai donnés, c'est par rapport au seuil de 60% du revenu médian. Donc on estime, le revenu médian, c'est le revenu dans le trait là, qu'on trace, et au-dessus, il y a la moitié de la population, en dessous, il y a l'autre moitié. Un médian, c'est au milieu. Je suis parti des 60%, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'être pauvre, moi j'estime qu'être pauvre, c'est avoir moins de 60% du revenu médian, mais certains capitalistes notamment disent, bon non, à 40% du revenu médian, ça suffit. Ouais, c'est ça. Essayez de vivre avec 600 euros par mois, les gars. Bon, mais eux, ils n'ont pas ce problème-là. Mais voilà, donc vaut mieux prendre la valeur haute, qui est 60% du revenu médian, ce qui est, à mon avis, quand même le minimum pour vivre en France, vu les coûts de la bouffe et du logement. Donc, si on prend ce chiffre-là, de 60%, cette pauvreté a augmenté de 17% ces dernières années, depuis les années 2000, et celle en dessous du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, c'est plus 30%. Donc, il y a quand même une énorme augmentation. D'ailleurs, si on regarde les écarts de niveau de vie, ont augmenté depuis les années 70, et surtout depuis une... Si on prend le point de repère années 70, globalement, aujourd'hui, il y a moins d'écart entre les pauvres et les riches qu'en 1970. Mais si on prend le milieu des années 90, c'est l'inverse. Ça veut dire que non seulement la richesse a augmenté en France, mais la répartition s'est mieux faite jusqu'au milieu des années 90. Bon, c'est des choses qu'on sait. Si on va un peu plus loin, sur les 10 dernières années, voire encore un peu plus près, l'écart se creuse de manière énorme. Par exemple, en 2002, les 10% les plus riches avaient un revenu 6 fois supérieur aux 10% les plus pauvres. En 2012, les plus riches ont un revenu 7,2 fois supérieur aux plus pauvres. Donc cet écart, il augmente vraiment. Et depuis 2012, c'est encore pire, dirais-je, même si les chiffres là sont pas officiels, les chiffres qu'on a des différents instituts montrent que ça continue d'augmenter. Ce qui a changé, c'est un peu l'endroit où se situent les pauvres. Il y a une grosse étude de l'INSEE qui a été dévoilée il y a pas bien longtemps, quelques jours, quelques semaines maintenant, qui réexplique où se situent les pauvres. Et aujourd'hui, 64% des pauvres vivent au cœur des grands pôles urbains. Il y a tout un graphique qui explique. Il y a les zones périurbaines, donc un petit peu plus loin du centre. Le centre, on ne parle pas du centre comme Lyon, ça serait la presqu'île. Le centre, la ville centrale, c'est-à-dire tous les quartiers de Lyon. En dehors de ça, il y a 17% de pauvres qui se situent dans ces quartiers-là. 64% au cœur même des grandes villes. Et ce qui a beaucoup diminué, c'est la pauvreté en milieu rural. Il y a encore une pauvreté en milieu des gens isolés un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, la pauvreté, et on la connaît bien, elle est en ville. Alors certes, elle n'est pas dans tous les quartiers, puisque là, l'inégalité avec la gentrification notamment, elle s'est accentuée, mais aujourd'hui, les pauvres se situent essentiellement dans les villes. Alors, autre indice intéressant qui permet de voir l'état de la richesse ou de la pauvreté en France, puisqu'on sort des vacances de printemps, mais juste avant, il y a eu les vacances d'hiver. Si on regarde le taux, nombre de Français qui partent, parce que quand vous regardez les informations pendant cette période-là, vous avez tous les journaux qui ouvrent, télé, radio, sur les vacances d'hiver. Donc on se dit, ça doit toucher au moins 99% de la population. Eh ben non, 8% des Français seulement partent au ski au moins une fois tous les 2 ans. Donc, ces journaux sont faits essentiellement pour les riches, là on commence à bien le comprendre. Grosso modo, la répartition, c'est 40% des cadres partent en vacances d'hiver au moins une fois tous les 2 ans, et 9% des ouvriers. Le chiffre moyen est encore plus bas, parce qu'il y a encore plus pauvres que les ouvriers, il y a les chômeurs, tout ça. Je vais donner quand même un dernier chiffre pour terminer sur une partie positive. Mais cette partie positive, ça sera pas pour vous, ça sera pour les riches, puisque avant-hier ont été révélés les salaires 2014 des patrons du CAC 40. Vous savez, CAC 40, c'est les 40 entreprises françaises les plus grosses. Donc là, j'ai une bonne nouvelle pour les riches. Tout va bien, puisque leur salaire a globalement augmenté. Donc, je vais pas donner tous les chiffres, mais juste donner le salaire annuel moyen d'un patron du CAC 40, c'est 2 267 811 euros. Par mois, ça fait quasiment 189 000 euros. Voilà, les plus pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus riches. Et quand vous entendrez parler du chômage, vous avez en face un libéral.
Eh ben, il y en a en France, ils ont du travail, ça s'appelle des communicants. Et alors, il y en a, ben, ils communiquent. Puis il y en a d'autres, ben on se demande ce qu'ils ont bouffé avant de communiquer. Alors, ceux et celles dont je parle, là, c'est les communicants de l'Élysée, de Matignon. Enfin, vous voyez là-haut, là, c'est les chefs. Moi, je pense qu'ils ont trouvé des champis. Alors, la dernière idée en date, c'est pour vendre, médiatiser les startups françaises. Eh ouais, eh ben, il y a de l'idée. Et donc, ils nous ont créé un truc qui s'appelle Amazing French Tech.
Ah oui, alors parce que pour les start-up françaises, il faut utiliser des mots-clés déjà.
Oui, c'est déjà mieux. Tu as bien repéré ça tout de suite. Ouais. Effectivement, et donc il s'agit d'un super-héros fortement inspiré des comics.
En ce moment, c'est la mode un peu.
Et qui répond évidemment à l'actualité Avengers au cinéma. Wally Walou. Alors donc, ils ont communiqué ces communicants sous champignons, sous évidemment les réseaux sociaux du gouvernement. Ah bah il s'éclate, hein. Franchement, le héros 100% la French Tech, nous explique-t-on. Il n'y a pas besoin de lire de la science-fiction ou d'aller au cinéma. Eh ben non, il y a Amazing French Tech. Alors, c'est un gars, hein, déjà, un gars. Ça, voilà. Alors, on n'allait pas les mettre une femme non plus, hein, qui est musclée. Hein. Bah non, on n'allait pas mettre un maigrichon. Et qui est prêt à l'action. Alors, il a sur son costume déjà bleu, blanc, rouge.
Ah oui.
Un plastron avec un coq. Ah bah oui, on a dit France.
Dans la caricature un peu.
Un petit peu. Ah bah, il communique sous champignons, je t'ai expliqué, écoute. Alors, donc, il a tout plein d'équipements, vu qu'évidemment, il nous parle des start-up. Hein, donc, il a les semelles connectées, le casque relaxant, la main bionique, la montre connectée, la ceinture connectée, l'exosquelette, par exemple, l'analyse du visage en temps réel, les lunettes intelligentes, le t-shirt connecté, oui. Le cœur artificiel et le bracelet connecté. Donc, dans tout ça, il y a des trucs très sérieux. Mais dans tout ça, il y a des trucs, il ne risque pas de gagner grand-chose en tant que super-héros, si vous voulez. Hein. Donc, il y a de tout dans cette technologie. Pas forcément du guerrier à la super-héros. Hein. Donc c'est bien, déjà, ils ne nous ont pas tout mis que pour faire la guerre. Voilà, donc c'est une idée. Je n'ai pas réussi à savoir combien tout ça coûtait en communication. Mais je pense que c'est les champis plutôt qui coûtent plus cher, là, en ce moment, à la France. Beaucoup d'idées, donc, chez nos camarades politiques de là-haut, qu'on salue, parce que le champi, quand même, qu'ils en envoient. Hein.
En même temps, c'est pas très original. Hein. Il y a plein de pubs avec des super-héros, plein de machins avec des super-pouvoirs.
Oui, mais ils rebondissent sur l'actualité. Temps, donc, ils ont quand même rebondi sur Game of Thrones. Non, mais ils arrivent. Alors là, c'était pour nous parler de la réforme territoriale. Non, mais c'était pour dire que, voilà, sur l'actualité, sur l'événementiel, sur la médiatisation, ils se chopent des trucs. Et puis, ils communiquent sur les réseaux sociaux. Je sais pas, c'est une méthode de propagande, ma foi, très intéressante. On va voir ce que ça donne, parce qu'à chaque fois, c'est de pire en pire. Alors, on va continuer quand même avec donc, les super-héros. Je vous disais, on va parler d'Avengers 2. Voilà, c'est ça. Donc, blockbuster de Disney, qui est donc sorti en salle en France.
C'est Disney, les Avengers ?
Oui, et c'est sorti aussi en Allemagne. Et alors, en Allemagne, ça se passe pas tout à fait bien. Puisqu'il y a des exploitants de cinéma qui ont joué les rebelles. 193 cinémas allemands, ça représente à peu près 700 écrans, ont décidé de ne pas diffuser Avengers l'ère d'Ultron, hein, le film de Joss Whedon. Eh bien non, alors, c'est pas tout à fait pour des raisons artistiques. Non, c'est pas qu'ils ont trouvé le film tellement mauvais qu'ils se sont dit, mais non, je peux pas programmer ça. Non, c'est une brouille financière. Hein. Là, on est dans le capitalisme.
Bien, ouais.
Alors pourquoi ? Parce que la firme, elle réclame 53% du prix du billet contre 47,7 habituellement. C'est-à-dire qu'il y a des négociations. Il faut comprendre que là, on est sur des plus petits exploitants, on n'est pas sûr du gros complexe, ça se passe d'ailleurs plutôt dans le nord de l'Allemagne. Et d'habitude, c'est vrai que il y a des négociations si vous êtes un peu plus petit, si vous êtes dans une région où moins d'habitants, si vous êtes hors zone urbaine, il y a des petites négociations en place. Disney a décidé que non. C'est le même prix pour tout le monde. A priori, la firme a aussi décidé de cesser de prendre en charge une partie du prix des lunettes 3D. Et bien oui, parce que tout ça, ça coûte aussi, hein, à l'exploitant, bien évidemment. Disney a aussi décidé de baisser son investissement publicitaire. Je sais pas, ils doivent se dire qu'ils sortent un truc dont tout le monde parle.
Ça marche tout seul.
Donc
oui,
voilà. Alors, il faut se souvenir quand même que c'est pas la première fois qu'il y a une rébellion. En 2003, 200 cinémas allemands avaient refusé de diffuser Hulk de Ang Lee. C'était à peu près pour les mêmes raisons. Hein. Donc il y avait déjà eu un problème à l'époque. Alors, là, il n'y a pas eu de discussion préalable. C'est peut-être aussi un petit peu pourquoi ça que ça a choqué. Il y a eu une rencontre la semaine dernière, mais il n'y a pas eu de compromis trouvé. Il faut savoir que les petits exploitants ont dû se mettre aux normes de la technologie, hein, comme les multiplexes, pour pouvoir projeter des copies numériques, des films en 3D. Alors vous allez me dire, ils sont pas obligés. Ouais, mais ça, c'est il faut savoir que chaque pays a son économie du cinéma, et l'économie du cinéma en Allemagne n'est pas du tout la même qu'en France, où en France, on a aussi une économie du cinéma français qui arrive un petit peu à peser face au cinéma hollywoodien. Il y a aussi une autre tradition de diffusion, mais en Allemagne, il y a beaucoup aussi de petits cinémas, hein, qui font un travail de ce qu'on appelait avant le art et essai en France. Mais il y a aussi, comme tas de salles en France hein, qui diffusent aussi des gros films, parce qu'il faut aussi bouffer, hein, faut arriver à pouvoir diffuser un peu de tout. Certains d'ailleurs se sont plutôt accolés hein, multiplex, sauf qu'ils sont dans des régions où il n'y a pas le multiplex, donc c'est eux qui diffusent ces gros films. Donc pour eux, ne pas sortir le film, c'est quand même une perte, hein, il faut se dire financière, il faut bien se dire que ça impacte quand même l'économie en ce moment dans les cinémas allemands. Donc c'est un bras de fer où on a un peu l'impression que Disney risque de gagner. Alors il risque d'y avoir un petit peu d'autres tensions. Pourquoi ? Parce que Disney va sortir un film que beaucoup attendent en décembre prochain.
Tu veux dire avec Chewbacca ?
Star Wars, exactement. Le réveil de la force, donc ce sera le 18 décembre prochain. Il y a moyen que ça se passe exactement de la même manière pour Disney, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs gros sabots, qui disent pouf, c'est nous les chefs, on va faire comme on veut. Bon, il y aura peut-être bien quand même, on l'espère, pour tout le monde, et en particulier pour les exploitants des salles allemandes, des négociations. Alors oui, tu disais que ben ça marche tout seul. Pour vous donner quelques chiffres, dans les salles allemandes, c'est pratiquement 10 millions de dollars de recettes depuis sa sortie, de plus de 200 millions de dollars à travers le monde. Et en France, mercredi dernier, il y avait déjà 300 000 spectateurs qui s'étaient déplacés, et le film sort demain aux États-Unis. Alors, j'ai une dernière info sur Avengers 2. Non, mais parce que l'économie s'arrête pas aux salles de cinéma, bien évidemment, avec les films, surtout aujourd'hui. Le film vient juste de sortir, il n'est pas sorti aux États-Unis d'Amérique, et déjà Amazon britannique a décidé, a précommandé et fait savoir et médiatise déjà, annonce sortir une version DVD extra plus. Alors, le film fait déjà pratiquement 2h30. La version première de Joss Whedon en faisait 3h30, donc c'est une version de gens là qui veulent essayer de sortir. Alors tout ça c'est bien, il y a des fans qui vont être contents, mais ça va surtout continuer à remplir les poches de Disney et d'Amazon, hein, parce que l'idée du produit DVD, Blu-ray et tout ça, bah, c'est continuer évidemment à faire un petit peu des recettes.
Bon, on va rester dans le capitalisme. Hier, mercredi, sort comme d'habitude Le Canard Enchaîné. J'ai lu un petit article qui reparlait du World Economic Report fait au mois d'avril par le Fonds Monétaire International. Et il résumait un petit peu l'analyse de Jacques Sapir dessus. Donc je suis allé chercher le texte de Jacques Sapir pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dans ce rapport. Je suis pas allé lire le rapport complet en anglais du FMI sur l'économie du mois d'avril. Mais je me suis juste intéressé à l'analyse de Jacques Sapir. En plus, il est beaucoup plus spécialiste que moi, vous imaginez bien. Et alors, c'est très très intéressant ce qui se passe. Donc, le texte, je ne vais pas faire tout ce qu'il y a dans le texte de Jacques Sapir, sinon on en a pour une demi-heure. Mais juste les conclusions et les points importants. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau rapport, il va à l'encontre des dogmes véhiculés en permanence par le FMI et les politiques libérales mises en place dans les différents pays. Alors, il y a deux points importants. Le premier point, c'est sur le déclin de la croissance potentielle. Donc, la croissance potentielle, c'est pas la croissance réelle, c'est un modèle mathématique beaucoup plus performant qui tient en compte de la croissance du PIB, mais aussi démographique, des investissements. Enfin, c'est un outil qui est plus performant, un indice beaucoup plus performant. Donc, eux, ils calculent cette croissance potentielle et ils se rendent compte que le déclin a commencé aux alentours des années 2000 de cette croissance potentielle. Bien avant la crise de 2008. Ça veut dire que c'était déjà intrinsèquement une crise qui commençait. Donc, ça remet en cause le dogme, hein, la crise de 2008, bancaire, tout ça, etc. Après il analyse tous ces chiffres, hein, sur cette croissance qui retombe. Ce qui est donc intéressant dans le premier point sur cette croissance potentielle, c'est que une fois que la crise est terminée, on va dire aux alentours de 2000, 2012-2013, l'économie repart dans les indices de croissance réelle dans certains endroits, mais le taux de croissance potentielle, lui, il redémarre quasiment pas. C'est-à-dire que intrinsèquement, la crise, elle reste. Et c'est la première fois, d'après Jacques Sapir, et a priori, d'après en fait le Fonds monétaire international, que ça arrive. Donc cette crise, elle a pas permis à l'économie de repartir une fois que la crise est terminée. D'où les taux de croissance réels bas qu'il y a un peu partout. Je vais pas me faire défendre la croissance, hein, mais dans l'analyse capitaliste de ce qu'ils expliquent dans le FMI, ils arrivent à la conclusion qu'effectivement aujourd'hui il n'y a pas de croissance réelle parce qu'il n'y a pas de croissance potentielle. Et après, donc, ils donnent les chiffres de la croissance tels qu'ils l'envisagent avec, je vous donne pas tous les pourcentages, vous irez voir. Alors ça, c'est le premier truc important, donc c'est que cette crise, c'est une crise longue et structurelle et voulue quelque part, mais ça, ils ne le disent pas les capitalistes. Alors eux, ensuite, ils se posent des questions sur les réformes. Alors, ils regardent quelles réformes il faut faire pour sortir de la crise. Ils parlent de 7 facteurs. Donc, ils analysent 7 facteurs. L'évolution des réglementations concernant les produits, les trucs de simplification là, du gouvernement. L'évolution des réglementations concernant le marché du travail, en gros, la flexibilité. Les effets des taxes pesant sur le travail, la disponibilité d'une manœuvre fortement qualifiée, les investissements en recherche en développement, les investissements en techniques de communication et d'information et les infrastructures. Ils analysent ces 7 critères et vous imaginez qu'ils vont conclure que la crise elle disparaîtra si on augmente la flexibilité, si on enlève les taxes sur les produits, enfin le discours économique de droite habituel. Eh ben non. Pas du tout. Eux, ils expliquent, alors c'est beaucoup plus complexe que ce que je le dis, mais ça arrive exactement à ça, notamment sur à moyen terme, alors le moyen terme, c'est à l'horizon de 5 ans, ils disent, les 2 critères importants qui peuvent faire changer les choses sont les investissements en recherche et développement et les investissements en techniques de communication et d'information. Donc, ils se mettent du côté de ceux, les keynésiens un peu, qui disent qu'il faut investir, en fait, et que le reste, c'est pas important. Et eux, ils disent ça. Et alors, ils vont encore plus loin que ça. Ils disent, les changements de la réglementation du marché du travail à moyen terme, donc la flexibilisation, les choses comme ça, ne donnent aucun effet sur les 5 ans. Alors déjà, ça change du discours libéral traditionnel. Et alors, ils vont plus loin. Quand ils font une étude sur une durée différente, notamment à court terme, ils disent... C'est pire, ils disent, les mesures sur augmentant la flexibilisation et qui changent les règles du marché du travail font naturellement, mécaniquement, baisser la croissance potentielle. Donc c'est presque un discours antilibéral. Sauf que le discours qu'ils ont, c'est juste une analyse des chiffres. Et ils constatent ça. Alors ça fait 15 ans au moins que le FMI nous rabâche des choses sur la libéralisation, sur la flexibilisation, et ils viennent de se rendre compte, en analysant les chiffres, que ça avait l'effet inverse. Alors, une fois qu'on a ce rapport, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Parce que, et c'est finalement la conclusion du rapport, c'est que ça, les économistes, ils le savent déjà. Alors, pourquoi on nous bassine toujours sur la flexibilité, sur les taxes qui sont trop fortes, des choses comme ça? C'est parce que, et c'est ce que la conclusion du rapport, la conclusion du rapport, non, c'est écrit en filigrane dans le rapport, mais c'est la conclusion de Jacques Sapir, c'est qu'en fait, le discours économique, c'est un discours idéologique et pas scientifique. Même déjà, c'est pas une vraie science, mais une science molle, mais... C'est même pas un discours scientifique, c'est un discours idéologique. Quand on a un discours scientifique, on a ce rapport du FMI qui dit l'inverse de ce que font Valls, Macron, Moscovici, pour parler de la France et tous les autres. Donc voilà, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil sur le texte complet, vous en apprendrez encore plus.
On parle de Google maintenant, parce que Google a toujours de bonnes idées pour nous rendre la vie plus agréable. Alors la nouvelle idée de Google, c'est une plateforme. Une plateforme pourquoi? Pour qu'on puisse vendre nos brevets.
Oui. Il n'y a pas déjà un truc, l'INPI en France, et puis d'autres trucs ailleurs?
Ouais. Alors c'est un programme qui va être ouvert entre le 8 et le 22 mai prochain. Donc individus, entreprises, tout le monde pourra aller proposer à Google son brevet. Google va étudier tout ça et il rendra une réponse le 26 juin 2015 pour ensuite faire des transactions pour acheter ses brevets en août 2015. Donc voilà pour le processus. J'ajouterai que ce sont des brevets qui, pour l'instant, ne concernent que des brevets enregistrés aux États-Unis et l'Amérique.
Et essentiellement sur l'économie numérique, j'imagine. Ils précisent pas, peut-être.
Google, en fait, oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'ils vont retenir. Tu peux toujours aller proposer ce que tu veux, mais oui, si
en fait, bon,
il y a un petit peu un explicatif, j'ai pas tout lu, je dois bien vous le dire. En plus, les trucs en anglais, vous savez, au bout d'un moment, au bout de 4 lignes, il faut demander de la concentration. Bon, je plaisante, mais non, j'ai pas tout lu, effectivement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi ils font ça. Ah, pourquoi ils font ça? Parce que déjà, ils nous aiment. Ça, je vous l'ai dit. Oui. Et puis, alors, l'idée, c'est aussi de limiter un certain nombre de petits problèmes en justice. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle en anglais les patent trolls. Alors, ce sont des individus, des entreprises spécialistes qui achètent des brevets, parfois les revendent. Mais l'idée surtout de tout ça, c'est se faire du pognon sur le dos d'entreprises, parfois de petites entreprises, parfois de multinationales comme Google, en allant réclamant du pognon et en disant « Ah, monsieur Google, t'as utilisé mon brevet, ma technique. »
Voilà. En fait, ils rachètent des brevets et après, ils se servent d'intermédiaires, ils veulent servir d'intermédiaires. Et s'ils se rendent compte que les entreprises ont déjà utilisé ce qu'il y avait dans les brevets, voilà, c'est un peu la justiciarisation systématique là, du système américain. Effectivement, ils vont courir après, et peut-être d'ailleurs essentiellement les multinationales.
Alors, Google est assez franc, hein, le groupe, la multinationale est assez franche là-dessus. C'est bien pour faire cesser les différents litiges qui l'opposent un petit peu de partout aux États-Unis, hein, parce que c'est...
À force de pomper, voilà, il s'est fait choper.
Non, mais il y a aussi des gens qui en profitent, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'usure, hein, c'est ça. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que des multinationales qui sont touchées, il y a des entreprises plus petites aux États-Unis, et parfois ça amène quand même des entreprises dans des situations financières assez catastrophiques. Voilà, alors Google nous aime beaucoup, la multinationale a précisé que les inventeurs qui vendraient leurs brevets sur cette plateforme conserveraient une licence qui permet leur permettrait d'améliorer le brevet, si vous voulez. Hein, ils pourraient continuer à participer à tout ça. C'est très communautaire, vous voyez, c'est très bien. C'est magnifique, c'est Google. Bon, l'idée, c'est quand même qu'ils arrêtent d'avoir des problèmes et des litiges, et puis de récupérer, finalement, à des coûts assez corrects, tout un certain paquet de brevets, puisque ils élargissent, hein, quand même, leur champ d'action depuis un certain nombre de temps. Et donc, c'est une nouvelle méthode de s'installer aussi financièrement, et puis d'acheter tout un tas de brevets. Alors, je continue, on va parler maintenant d'hommes et de torses, et oui. Ah, les magasins Abercrombie & Fitch, ça vous dit quelque chose? C'est une marque de fringues. Oui, mais t'es pas assez jeune, mon gars.
Ah oui, pardon.
Dont nous avions parlé il y a déjà un petit bout de temps, parce qu'il leur arrivait plein de péripéties. Alors, leur spécialité, c'était de recruter des hommes beaux et jeunes, selon des critères précis, et ensuite de les dessaper à moitié, puisqu'ils se baladaient torse nu dans les magasins. Alors, la petite astuce, c'était qu'en fait, c'était pas des vendeurs, mais des mannequins qui donc proposaient la marque. Hein, voyez un petit peu la subtilité. Donc, c'était des représentants, si vous voulez. Abercrombie & Fitch a décidé de changer ses méthodes de management et de recrutement. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'il y a une petite chute des ventes quand même. Non, en fait, c'est une chute assez importante des ventes. Ils ont même fichu à la porte l'ancien patron, Mac Jeffries, par qui tous les scandales étaient arrivés. C'est lui qui avait imposé ses méthodes de management très particulières. Alors, dans les scandales, il y en avait eu plusieurs. Il y en avait un, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans cette émission, c'était en 2013. C'est le site BuzzFeed qui avait publié le règlement intérieur esthétique avec dessin de la marque, hein. Donc il y avait tout un tas d'explications de ce que on pouvait faire ou pas faire, s'habiller, mettre la barbe, les piercings, enfin le vernis, enfin tout était bien listé, bien propre. Et puis il y avait eu des trucs beaucoup plus cocasses, je sais pas quel est le mot employé. C'était en 2010, là, c'était le Corriere della Sera qui avait publié des mails de la direction italienne envoyée à leurs employés et qui leur expliquait que, par exemple, s'ils faisaient des erreurs, ça serait des séries de pompes pour réparer l'erreur. Alors tout ça était dit peut-être sur un ton un petit peu jeune et ça va être sympa, sauf que bon, c'est quand même un petit peu spécial de dire alors vous allez me faire 20 pompes parce que vous avez mal rangé par exemple un présentoir, c'est quand même assez particulier. Alors monsieur Jeffries se justifiait, hein, c'était en 2006 dans la presse, il expliquait: nous embauchons des gens qui présentent bien parce que des gens qui présentent bien attirent l'attention des personnes qui présentent bien, et nous visons les gens qui présentent bien et rien d'autre. Il expliquait aussi: dans chaque école il y a des enfants cool et populaires et d'autres qui ne sont pas si cool que ça. Franchement, nous nous adressons aux enfants cool qui ont une attitude super et qui ont plein d'amis. Plein de gens ne rentrent pas dans ce cadre et ne pourront y rentrer. Sommes-nous exclusifs? Complètement. Il avait d'ailleurs viré toutes les grandes tailles, hein, de ses catalogues, c'est-à-dire qu'il estimait que les gros, il n'en voulait pas dans ses magasins. Hein, c'est ce qu'il avait expliqué. Hein, voilà. Donc tout ça, a priori, c'est fini. Ils vont pouvoir mettre un t-shirt, les vendeurs. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Et puis, ils ont dû quand même réagir face à une réaction financière qui est venue aussi parce qu'il y a eu tout un tas de scandales et puis une médiatisation. Voilà, pour une fois que la débilité d'une stratégie commerciale arrive à faire chuter les ventes et donc à virer un patron, écoutez, magnifique. Magnifique.
Alors, on va continuer dans l'économie. Cette émission est très économique, ce journal, avec, oui, la nouvelle du jour, vous l'avez peut-être entendu, puisque François Hollande, tel le super représentant de l'armement français, est arrivé à vendre 24 avions de combat. Donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça s'est fait aujourd'hui avec Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, donc l'émir, c'est-à-dire le dictateur en chef de ce régime ultra-totalitaire qu'est le Qatar. Donc, voilà, après l'Égypte, autre pays très démocratique, l'Inde, qui est démocratique tout court, là ça va, voilà, François Hollande est arrivé avec ses amis capitalistes d'Assaut à vendre du Rafale. Ce qu'on notera quand même, c'est qu'une fois de plus, M. Hollande et Dassault vendent à des régimes totalitaires. On sait qu'après, c'est très compliqué quand ces régimes totalitaires sont mis au ban de la communauté internationale, puisque la France va continuer de les soutenir. Il y a plusieurs contre-exemples, il y a plusieurs exemples qui montrent tout ça. Voilà, c'est assez triste de voir que l'économie française, finalement, ne peut exister que si on vend des armes et que ces armes sont vendues à des régimes totalitaires. On n'est pas dans une forme de progrès. Bon, le Parti Socialiste n'est plus un parti progressiste, on va dire, depuis très très longtemps. Mais là, ça va quand même assez loin qu'il soit champion des ventes d'avions de combat, qu'il défende l'armée, qu'il augmente le quota de l'armée. Contrairement à Sarkozy qui avait fait, qui n'était pas arrivé à vendre, bon, peut-être parce qu'il n'est pas bon vendeur, et puis qui avait pas forcément augmenté les budgets de l'armée, ce que Hollande est en train de faire. J'espère que vous êtes contents de vivre dans un pays socialiste, mais de droite.
Alors on va parler des supporters de football par exemple. Hein, vous allez me dire, supporters. Ouais, je suis sûr qu'en plus, il y en a certains et certaines d'entre vous
qui sont supporters
de
quand
foot,
même.
Là, qui nous écoutent derrière leur poste. Alors, c'est la Ligue des droits de l'homme qui a déposé un recours, qui l'a fait savoir hier, devant le Conseil d'État pour empêcher le fichage des supporters sportifs par la préfecture de police de Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un arrêté du 15 avril du ministère de l'Intérieur, qui a été publié au journal officiel le 23 avril, qui autorise la préfecture de police à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel, qui s'intitule « fichier stade ». Simple et efficace. Alors pourquoi ? L'idée, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public, les débordements à l'occasion des manifestations sportives et des rassemblements à Paris, en particulier des matchs de foot, c'est ce qui est aussi visé. Et la LDH, on est bien d'accord, elle dénonce un fichage généralisé de la population, elle parle de boulimie.
Oui, parce qu'ils ne fichent pas les supporters qui ont déjà commis des exactions, ceux-là, attention, ils sont déjà fichés dans les fichiers de police. Là, ils voulaient ficher tout le monde.
Ah, c'est surtout que on ne sait pas bien c'est quoi un supporter. Si on lit le truc, c'est que cette notion, elle est quand même un petit peu floue, c'est-à-dire que globalement, les gens, ils vont voilà au stade. Moi, je vous conseille de serrer la main de personne au stade, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est mal vu, et vous allez vous aussi vous retrouver dans le fichage. C'est un peu ça, dans le fichier, excusez-moi, c'est un peu ça quand même l'idée qui est dénoncée par la LDH. C'est que là, d'un seul coup, ils ont raison de parler de boulimie, c'est qu'on se met à créer des fichiers un petit peu de tout et de n'importe quoi, sans précision et détail. Les notions sont un peu vagues, tout ça est un peu flou. Et puis là, la LDH, rappelle un truc que j'avais un peu oublié dans mon cerveau, et va plus loin d'ailleurs, c'est que la LDH estime qu'il y a une volonté de légaliser de manière détournée un fichier illégalement constitué par le PSG. C'était il y a plus d'un an, c'était en janvier 2014. C'est la CNIL qui avait tapé sur le PSG pour avoir créé une liste de 2000 supporters considérés gênants, non conformes, paraît-il. Oui. C'est le terme qui est employé. Et que la CNIL n'était pas contente. Donc voilà, la LDH va plus loin en disant c'est la manière de permettre au PSG de maintenir son fichier. De toute manière, quand les politiques vont au stade de foot et sont dans les gradins en train d'applaudir, il faut bien se dire qu'il y a quand même quelques amitiés. Donc ça rend service à tout le monde, en tout cas certainement pas à nous. Et puis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on va pas au stade, qu'on n'est pas supporter, que un tel fichier, il n'est pas dangereux, parce qu'en fait, il concerne tout le monde et qu'on voit pas pourquoi un supporter de foot devrait être dans un fichier. Tout simplement.
Oui. Alors, on va terminer cette émission avec une petite rubrique sur le nucléaire, comme on faisait très régulièrement dans Scanu Info. Les infos du jour concernent des infos d'il y a quelques jours déjà, mais la suite du jour. Alors, d'abord, on va commencer par le fameux sarcophage. Vous savez que Tchernobyl, puisqu'on va parler de Tchernobyl aujourd'hui, 29 avril, hein, hier, triste anniversaire de Tchernobyl, c'était il y a 29 ans, si je sais compter. Non, c'était pas le 26 avril d'ailleurs, il me semble. J'ai eu un doute là d'un coup. 26 avril. Donc bref, il y a eu une conférence hier, mercredi, internationale à Londres, sur la reconstruction d'une nouvelle chape. Vous savez que dans l'histoire, hein, quand ça a pété à Tchernobyl, que des centaines de personnes d'Ukrainiens et de Russes se sont sacrifiés hein, pour essayer d'éteindre, d'empêcher que ça aille plus loin que ça, cette catastrophe nucléaire. Sur ce réacteur numéro 4, il n'y a qu'un seul réacteur hein, qui a pété à Tchernobyl, en Ukraine. Ils ont construit le plus rapidement possible un sarcophage en béton. Donc c'est il y a presque 30 ans, et le truc il fuit, il est fissuré, enfin c'est une catastrophe. Donc il y a l'idée de construire un nouveau sarcophage. Et la conférence d'hier, c'était pour essayer de finaliser l'argent pour construire ce sarcophage. Donc ils ont récupéré 180 nouveaux millions d'euros pour cette nouvelle chape. Et ils estiment que le financement est bouclé. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Il en manque un peu d'argent, mais ils estiment que la banque de développement, la BERD, ça veut dire Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, a dit qu'il leur faisait quand même crédit sur cet argent-là. Donc le nouveau projet devrait enfin pouvoir se mettre en place. On rappelle qu'au début, c'était prévu en 2012, puis en 2015. Et là, si tout va bien, pour 2017, donc dans un peu 2 ans, il devrait y avoir un nouveau sarcophage qui devrait durer, non pas indéfiniment, non pas suffisamment longtemps, mais un certain temps. Hein, suffisamment longtemps, parce que comme il y a de la radioactivité, les parties en béton, même les métaux, n'aiment pas les radiations et s'abîment. Bon, en tout cas, on a espoir que celui-là tienne et soit étanche plus longtemps et plus solide que le précédent, puisqu'il y a, ils ont un peu plus de temps et plus surtout de facilité pour le construire, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de radioactivité aujourd'hui qu'à l'époque. Et toujours sur Tchernobyl, la triste histoire, c'est qu'il y a le feu autour de Tchernobyl. Ça a commencé mardi matin. Aujourd'hui, les pompiers ont éteint une grande partie du feu. Il reste quelques petits foyers, mais très peu importants. Donc, il y a espoir que le feu s'arrête. Alors, c'est relativement loin, on va dire, de la centrale nucléaire, c'est-à-dire que la centrale nucléaire ne risque rien, mais c'est quand même un feu dangereux. Pourquoi c'est un feu dangereux ? Parce que ce qui est en train de brûler, ce sont les forêts autour de Tchernobyl. Les forêts qui concentrent une radioactivité énorme, puisque quand ça a explosé, la radioactivité est partie, hein, sauf en France, hein, on rappelle que nous, on avait un barrage hein, sur la frontière, mais en dehors de ça, ça s'est tombé dans la terre, c'est tombé sur les arbres ont poussé en se nourrissant de cette radioactivité, ils sont radioactifs. Et quand ces arbres se mettent à brûler, la radioactivité se trouve dans les fumées et dans les cendres. Et les cendres sont à nouveau portées par les vents. Donc, il y a eu déjà plusieurs incendies, 2008, 2002 et 2010, et ça avait multiplié par 3 la radioactivité qui arrivait en France, par exemple. Alors, les instances disent que c'est pas si grave que ça, mais quand même, ça nous rappelle qu'une catastrophe nucléaire, c'est sur le long terme que ça dure. Et que là, le problème de l'Ukraine, c'est que les forêts autour, qui sont quand même encore un petit peu radioactives, hein, suffisamment en tout cas, pour qu'il y ait peu d'interventions humaines, et elles sont mais pas du tout entretenues. Du coup, une forêt pas entretenue, c'est des broussailles qui poussent partout, et au moins de petits problèmes, il suffit d'un orage, d'ailleurs c'est pour ça que souvent les feux ont plutôt lieu en été, parce que c'est sec aussi, et ça prend feu très vite. Donc là, ça prend feu parce que les forêts sont pas entretenues, donc voilà, on va recevoir un petit peu plus de radioactivité, à moins que ce que Mitterrand avait mis en place, c'est-à-dire une espèce de barrière à la frontière là qui arrêtait la radioactivité, soit à nouveau en place aujourd'hui, comme c'est un autre gouvernement socialiste, ils ont peut-être les mêmes capacités d'arrêter la radioactivité avec leurs petits bras musclés en soufflant très fort dessus. Voilà, il nous reste 2 minutes avant de passer la parole à la petite cuillère. Et nous allons faire un petit agenda. Donc je vous rappelle que demain nous sommes le 1er mai, que c'est une journée sans travail pour une grande partie de la population et qu'il y a une manif syndicale dans pas mal de villes, notamment à Lyon, 10h30, j'ai dit place Jean Jaurès. Voilà, j'ai failli me retromper. Mais il y a des choses qui continuent dans les jours qui viennent. Le lendemain de cette manif syndicale, on sera le 2, samedi, à Grenoble, il y a une nouvelle mobilisation contre le Center Park. Et ils ont décidé de faire cette mobilisation autour de la question sociale et des emplois, comme c'est le lendemain du 1er mai. Donc ils ont prévu un rassemblement au Square Hoche, qui est donc à Grenoble, à 11h, et après une petite manif, et ils reviennent manger, et des débats, des forums autour de l'emploi, puisque le Center Park, c'est des emplois précaires, enfin voilà, il y a plein de soucis. On va revenir à Lyon, toujours samedi 2 mai à 15h, place des Terreaux, un appel à rassemblement contre les lois liberticides du projet porté par le gouvernement qui devrait être malheureusement voté le 5 mai prochain. Un peu plus loin, c'est-à-dire le surlendemain, on sera dimanche 3 mai, à l'atelier du Chat Percé. C'est un super atelier de réparation de vélos qui est 32 rue Montesquieu dans le 7e. Ils accueillent l'atelier éphémère. C'est quoi l'atelier éphémère ? C'est des gens qui se regroupent pour réparer le matériel informatique, électroménager, tout ce qu'on peut imaginer, hein, dans une machine à coudre, un ampli vidéo, un ampli de son, tout ce que vous voulez, dont le but est de combattre l'obsolescence programmée et la non-réparation des matériels. Donc là, ils sont hébergés exceptionnellement ce dimanche de 15h à 18h à l'atelier du Chat Perché, 32 rue Montesquieu. Ils en font d'autres, des ateliers éphémères. Je vous laisse aller voir sur Rebellion, il y a plus d'infos. Et comme il reste 15 secondes, je vais terminer avec la permanence juridique des soutiens aux sans-papiers, qui a redémarré lundi 20 avril, et qui continue donc tous les lundis de 18h30 à 21h à la Lutine 91 rue Montesquieu, toujours dans le 7e. Il est 20h passé de 10 secondes.
On vous laisse et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bye, bye. Et la petite cuillère arrive, ils me donnent leur générique, donc je vais essayer de faire les deux choses en même temps, finir de parler et essayer de mettre le CD dans la boîte. Donc peut-être que Delphine va dire un petit mot le temps que je mette le CD.
Alors, donc, je dois vous dire un petit mot. Eh ben, je vous rappelle qu'on a toujours une belle campagne de dons, qu'on essaye de vous en parler le plus fréquemment possible dans nos émissions. Mais sinon, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet pour qu'on ait enfin un beau local.